Il est 22h sur Europe 1. Et tout de suite, c'est le journal de la nuit.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
Bonsoir. Le geste fort d'Emmanuel Macron pour les harkis. Le président leur a demandé pardon au nom de la France. C'est une première sous la Ve République. Le pass sanitaire pourrait bientôt être allégé ou levé dans les territoires où le virus ne circule plus. Le gouvernement veut procéder département par département. Explication dans ce journal. L'Union européenne au secours de la France dans la crise des sous-marins. Des déclarations de soutien à Paris. Des demandes d'explications à Washington. Nous serons en direct des États-Unis. Un mur de lave qui engloutit des habitations, des milliers de personnes évacuées. Nous irons aussi aux îles Canaries en Espagne où l'éruption d'un volcan sème la panique dans la population. Les sanctions sont tombées après les incidents entre supporters à la mi-temps de Lens-Lille samedi en Ligue 1. Détail à suivre avec Cyril de la Morinerie. Vous n'avez pas aimé ce lundi pluvieux, vous pouvez déjà l'oublier, vous dira Marlène Duret, le soleil revient dès demain. Et puis après ce journal, Top à Wall Street avec Didier Hamon, 22h20, l'invité éco sera Marc Delaillé, président du GIE Objectif Transport Public. Et on verra les unes de la presse pour ce mardi matin. Les mots sont d'autant plus forts qu'ils sont inédits. Le président Emmanuel Macron demande pardon aux harkis au nom de la France. 300 harkis et leurs descendants étaient invités ce matin à l'Élysée, près de 60 ans après la fin de la guerre d'Algérie et à 5 jours de la journée nationale d'hommage aux harkis. C'est la première fois qu'un chef de l'État leur demande pardon. C'est aussi la première fois qu'Emmanuel Macron prononce ce mot, Jacques Sorey.
Oui, jusqu'à présent, le président s'était toujours refusé à employer ce terme, que ce soit pour le rôle de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda ou bien pour les essais nucléaires en Polynésie française. Mais ce matin, Emmanuel Macron a surpris tout le monde.
Aujourd'hui, au nom de la France, je dis aux harkis et à leurs enfants à voix haute et solennelle que la République a alors contracté à leur égard une dette. Aux combattants abandonnés, à leurs familles qui ont subi les camps, la prison, le déni, je demande pardon. Nous n'oublierons pas.
Pardon, un impératif moral pour l'idée que l'on se fait de la France, glisse un conseiller du président. Dans la salle des fêtes de l'Élysée, c'est l'émotion qui l'emporte. Fait sans précédent, le discours du chef de l'État est interrompu lorsqu'une fille de harkis, les larmes aux yeux, l'interpelle directement. « On n'a pas de passé, mon cœur est blessé », lui lance-t-elle. Le drame des harkis, une plaie toujours à vif. C'est pourquoi, en plus de s'excuser au nom de la France, Emmanuel Macron s'est engagé à ce que le gouvernement porte avant la fin de l'année un projet visant à inscrire dans la loi la reconnaissance et la réparation à l'égard des harkis.
Merci Jacques Sorey. À l'Élysée, ce matin, vous avez rencontré une fille de harkis. Dalila Kerchouche a passé une partie de son enfance derrière les barbelés, dans un camp de transit des harkis dans le Lot-et-Garonne. Elle est touchée par les mots du président.
C'est la reconnaissance de notre souffrance, c'est la reconnaissance que les harkis ont été trahis par la République française. Donc là, c'est quelque chose qui est en train de s'ouvrir, de se déplier. Je pense que vraiment, on est en train de passer un cap dans l'histoire de ce drame. Il a reconnu leur sacrifice, il a reconnu aussi que la France n'a pas été à la hauteur de leur engagement, de leur fidélité, de leur loyauté. Il y a vraiment quelque chose dans l'ordre des représentations qui ont été profondément modifiées aujourd'hui par rapport à la figure du harki dans l'imaginaire collectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la figure du harki a été restaurée dans sa dignité, restaurée dans la place qu'il mérite dans le récit national. Donc moi, je pense évidemment à mon père, à ma mère. J'aimerais qu'ils entendent, j'aurais aimé qu'ils entendent les mots, voilà, les mots du président.
Dalila Kerchouche, une fille de harkis reçue aujourd'hui à l'Élysée. Quand l'heure viendra, le pass sanitaire ne s'effacera pas de la même façon qu'il a été imposé. Le gouvernement se prépare à l'adapter, territoire par territoire. Le pass pourra être ainsi levé dans les départements où le virus ne circule presque plus. Après un conseil de défense ce mercredi, un projet de loi sera présenté le 13 octobre, Alexandre Chauveau, pour régionaliser le pass sanitaire.
Oui, le gouvernement parle de territorialisation, c'est-à-dire qu'il pourrait lever l'application du pass sanitaire dans les départements où l'épidémie est moins forte, comme dans la Somme ou en Dordogne, et le maintenir là où le virus circule. Les contours du projet seront étudiés ce mercredi en Conseil de défense et en Conseil des ministres. Et il sera également question d'autres contraintes qui pourraient être réévaluées à la lumière des chiffres de l'épidémie, comme par exemple les jauges des établissements recevant du public ou bien l'obligation du port du masque dans certains lieux. Tout l'enjeu pour le gouvernement, c'est de se détacher politiquement de ce sujet, car en passant par une approche départementale, ce sont les préfets qui endosseront localement la responsabilité de la gestion du pass sanitaire. Même si dans les faits, les préfets sont les représentants de l'État, et donc aucune décision ne sera prise sans l'aval du gouvernement. Autre point à discuter, les critères qui permettront cette potentielle levée des contraintes. Le nombre de personnes en réanimation sera bien évidemment surveillé de près, tout comme le taux de vaccination et le taux d'incidence. Au total, une trentaine de départements seraient pour l'heure concernés par cette nouvelle mesure.
Merci Alexandre. La Corrèze fait partie des candidats logiques à la levée du pass sanitaire. Le virus y circule très peu. Pascal Coste est le président du conseil départemental de Corrèze et pour lui, pas question d'attendre plus longtemps pour en finir avec le pass.
Il est indispensable de ne pas attendre le 15 novembre et que très rapidement on puisse alléger les dispositions du pass sanitaire et faire en sorte qu'on puisse continuer la politique vaccinale, notamment pour ceux qui le souhaitent, mais qu'on retrouve une facilité à vivre et que l'on reste proche des réalités du terrain et que si ça repartait dans l'autre sens, on puisse aussi avoir la même réactivité pour réactiver un certain nombre de plans d'action. Je pense que les Français et les Corréziens ont été exemplaires. Ils ont répondu présent collectivement et je pense qu'il faut maintenant arrêter de les infantiliser ou faire en sorte d'être beaucoup plus pragmatique sur les décisions qui auront besoin d'être prises.
Pascal Coste avec Zoé Pallier. La mesure était très attendue. Les États-Unis vont rouvrir leurs frontières aux voyageurs internationaux vaccinés contre le Covid, européens et britanniques en tête. Entrée en vigueur début novembre. Ça faisait presque 2 ans que les frontières américaines étaient fermées en raison de la crise sanitaire. Cette réouverture annoncée est une formidable nouvelle, a réagi le patron d'Air France KLM. L'Union européenne fait bloc derrière la France dans la crise des sous-marins, alors que Joe Biden se dit impatient d'aborder le sujet au téléphone avec Emmanuel Macron. Le coup de fil doit être passé dans les tout prochains jours à la demande du président américain. L'affaire des sous-marins va sans doute s'inviter demain à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Alexis Guilleux, ces dernières heures, l'Union européenne a préparé le terrain et affiche sa solidarité avec la France, Alexis.
Oui, avec donc 2 déclarations en quelques heures. D'abord celle d'Ursula von der Leyen. Sur CNN, la présidente de la Commission européenne a jugé inacceptable la manière dont Paris a été traité dans ce dossier. De son côté, Charles Michel, le président du Conseil européen, a parlé d'un manque de loyauté des États-Unis. L'UE va donc demander des clarifications à Washington et tout cela donne le ton des discussions qui vont avoir lieu en marge du sommet de l'ONU cette semaine. D'ailleurs, les ministres européens des Affaires étrangères, dont Jean-Yves Le Drian, se réunissent ce soir à New York. Pour le moment, aucune rencontre n'est prévue entre les ministres français et américains, alors que Jean-Yves Le Drian et Anthony Blinken, son homologue, seront dans le même bâtiment dans les prochains jours au siège des Nations Unies. Concernant le coup de téléphone entre Joe Biden et Emmanuel Macron, on ne sait toujours pas quand il aura lieu, mais la Maison-Blanche l'assure, elle n'a aucune intention d'abandonner son nouveau partenariat avec l'Australie. Et puis il y a cette question qui se pose, est-ce que cette crise entre Paris et Washington a accéléré la réouverture des frontières américaines ? En tout cas, le timing de cette annonce aujourd'hui pose question. Le travel ban était un sujet de friction entre l'UE et les États-Unis. Un haut responsable américain a laissé entendre que les 2 dossiers pourraient être liés. Et puis sachez que c'est le Français Thierry Breton, commissaire européen, qui était tout à l'heure à Washington pour les dernières négociations avant l'annonce de la réouverture des frontières par les États-Unis.
Merci Alexis Guilleux en direct de New York pour Europe 1. Le procès des attentats du 13 novembre est entré dans sa 3e semaine. La cour d'assises spéciale s'est concentrée ce lundi sur les 2 dernières attaques terroristes qui devaient encore être examinées sur les terrasses des bars La Belle Équipe, le comptoir Voltaire, avec des images à nouveau très difficiles, en particulier pour les parties civiles présentes à l'audience. Marion Dubreuil.
Oui, notamment celle de 13 corps dissimulés sous des draps. Il n'y a pas eu de repérage à La Belle Équipe, explique l'enquêteur de l'ASDAT à la barre. Le commando des terrasses a déjà frappé 2 fois quand il dépasse La Belle Équipe à 21h35 en voiture avant de faire demi-tour par opportunité. Car il y a du monde en terrasse. On fête au moins 2 anniversaires, rappelle l'enquêteur. La Belle Équipe, ce n'est pas une brasserie impersonnelle, ça respire l'amitié. Les policiers ont retrouvé 164 étuis de balles, 21 victimes sont décédées. Une vidéo a amateur, tourné depuis un immeuble voisin et diffusé à l'audience. 28 secondes pendant lesquelles on aperçoit deux terroristes armés et on entend des rafales de tirs et ce cri « Allah Akbar ». C'est une vidéo sortie de son contexte, intervient Salah Abdeslam qui se lève. Le 13 novembre était inévitable. Le président interrompt sa diatribe contre la France. Il ne veut pas de provocation. Quelques minutes plus tard, une deuxième vidéo est diffusée. Ce sont les images de vidéosurveillance du comptoir Voltaire, explique un policier. On voit Brahim Abdeslam entrer dans le restaurant d'un pas déterminé et se faire exploser. Cette fois-ci, son frère, Salah Abdeslam, n'a pas réagi dans le box.
Marion Dubreuil au procès des attentats du 13 novembre 2015. Deliveroo et trois de ses anciens dirigeants renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris pour travail dissimulé. La plateforme de livraison de repas est accusée d'avoir caché un grand nombre d'emplois. Les faits concernent la période 2015-2017. Cette fois, le réchauffement climatique n'est pas en cause, mais les scènes de destruction tout aussi impressionnantes. Pour la première fois depuis 50 ans, un volcan est entré en éruption sur l'île espagnole de La Palma aux Canaries. Plus de 5000 personnes évacuées. Henri de la Guérie, vous êtes le correspondant d'Europe 1 en Espagne. La lave qui s'écoule du volcan provoque des dégâts très importants, Henri.
Oui, ce soir, la coulée de lave a déjà détruit plus de 130 maisons sur cette petite île de La Palma, aux Canaries. Mais aucune victime humaine n'est à déplorer. Les évacuations se sont terminées. Ce volcan, Cumbre Vieja, c'est son nom, qui est entré en éruption hier, continue de cracher des coulées de lave. Virginie Duiver habite dans l'île depuis une vingtaine d'années.
C'est super impressionnant. Ça fait peur, surtout que c'est dans une zone quand même peuplée. Il y a quand même déjà quelques maisons affectées. Je pense que tout le monde est un peu stressé, donc je sais pas encore, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Ça peut durer plus ou moins un mois avant que ça termine la coulée de lave, ça dépend en quelle direction ça prend.
Il n'y a pas de victimes à déplorer, on a l'impression que les îles Canaries et l'île de La Palma étaient préparées à l'éruption de ce volcan.
Oui, je pense que le protocole s'est très bien passé. Ils ont bien réagi, ils ont aussi évacué les zones de la côte. Donc je pense qu'à ce niveau-là, ils ont bien réagi.
Alors l'inquiétude est palpable, mais la population garde son calme et son sang-froid, à l'exception de ceux qui malheureusement sont en train de perdre leur maison. La coulée de lave qui avance désormais moins vite doit se jeter dans la mer cette nuit. Les experts prévoient qu'il y aura à ce moment-là des explosions et l'émission de nouveaux gaz toxiques.
Henri de la Guérie. 16 Français et leurs familles ont été évacués de Kaboul ce week-end alors que l'Afghanistan se trouve au bord du précipice sur le plan humanitaire. Une conséquence très concrète du retour au pouvoir des talibans. Samedi, la rentrée scolaire dans les collèges et lycées d'Afghanistan était réservée aux garçons. Les filles ont été priées de rester à la maison. Ava Jamshidi est grand reporter au magazine Elle. Elle revient justement de Kaboul. Son reportage est à la une du dernier numéro d'Elle qui s'est rapidement retrouvé en rupture de stock. Ava Jamshidi décrit le quotidien des jeunes Afghanes qu'elle a pu rencontrer.
Le parti pris du magazine Elle a été vraiment sur ce reportage de se concentrer sur cette génération en fait qui n'a pas connu les talibans. Et donc ce sont des femmes qui, quand bien même elles étaient plutôt issues de familles conservatrices, eh bien, ont embrassé comme ça toutes ces valeurs de liberté, de démocratie, ont été sensibilisées à la question du droit des femmes et qui subitement réalisent qu'elles vont se retrouver privées de la possibilité d'étudier, de la possibilité de travailler, de faire du sport, de faire de la musique et qui se retrouvent finalement plongées du jour au lendemain dans cette ancienne période que leur avaient tellement raconté leurs parents. Ce qui est très particulier dans ce moment, c'est qu'en réalité, il y a très peu de règles qui ont encore été édictées par le nouvel émirat islamique d'Afghanistan. Et donc, il y a une forme d'incertitude sur jusqu'à quel point elles vont pouvoir travailler dans certaines professions. Alors, pour le moment, certaines continuent d'avoir le même quotidien qu'elles ont toujours eu, mais la grande majorité d'entre elles, qu'il s'agit d'enseignantes, des juges évidemment qui savent bien qu'elles ne vont plus pouvoir exercer leur métier comme par le passé, eh bien, ont décidé tout simplement de rester chez elles.
Ava Jamshidi avec Romain Desarbres dans Europe Midi. Une double arrestation très inhabituelle dans le département du Rhône. Deux moines ont été interpellés en flagrant délit pour des dégradations sur des antennes relais par hostilité au déploiement de la 5G. Ces deux religieux d'un couvent catholique intégriste ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire. La semaine dernière, ils avaient tenté d'incendier deux pylônes téléphoniques. Les sanctions sont tombées pour Lens et Lille après les incidents entre supporters samedi à la mi-temps. 6 blessés légers, 2 spectateurs interpellés. La commission de discipline de la Ligue de football professionnelle s'est réunie en urgence cet après-midi. Cyril de la Morinerie, les sanctions n'auront pas tardé.
Oui, d'abord, le bouillon Stade Bollard sera vide lors des deux prochains matchs finis au Nord. C'était les corons de Pierre Bachelet, entonnés par tout le public lensois. Aucun spectateur ne sera admis, notamment pour le match Lens-Strasbourg, prévu mercredi. Mais aussi le 1er octobre pour la rencontre face à Reims. Par ailleurs, les supporters lillois n'auront plus le droit de se déplacer pour aller voir leur équipe à l'extérieur jusqu'à nouvel ordre. La commission de discipline se réunira le 6 octobre et prononcera alors des sanctions définitives. L'Association nationale des supporters, représentée par Pierre Barthélémy, estime que ces mesures prises à titre conservatoire vont trop loin.
Moi, je les trouve très sévères. Je pense qu'ils payent le contexte des incidents à Nice. On n'est quand même pas sur la même ampleur de toute une tribune qui descend pour essayer de s'en prendre aux joueurs. On est sur quelques dizaines de personnes qui jettent des projectiles et trouve les mesures conservatoires très radicales.
Pierre Barthélémy, qui fait allusion au derby Nice-Marseille, interrompu à la 75e minute, il y avait eu un envahissement de terrain et des coups échangés entre supporters et joueurs. La commission de discipline avait infligé à Nice un huis clos de 3 matchs et un retrait d'un point ferme au classement.
Merci Cyril. Tout de suite sur Europe 1, on passe à la météo pour ce mardi.
Vous rêvez de ciel bleu, de soleil, de chaleur? Aux Seychelles, il fait 29 degrés toute l'année. Et chez vous, il fait combien? Les Seychelles vous présentent la météo.
Voyons donc cela avec vous Marlène Duret. Le beau temps revient progressivement ce mardi, mais bon, tout le monde n'en profitera pas dès demain.
Hein. Voilà, c'est ça exactement. Alors le matin, il faudra encore compter avec des averses entre l'Aquitaine, le Limousin, le Berry, l'Auvergne-Rhône-Alpes, le Midi-Pyrénées, mais aussi dès les premières collines provençales jusqu'aux Alpes du Sud. Et le ciel va rester chargé comme ça toute la journée dans ces régions, si ce n'est que les averses vont quand même se faire plus rares. Du Roussillon à la Côte d'Azur, en passant par les plaines du Languedoc, là le temps sera plus sec, plus lumineux, avec au pire quelques gouttes sur l'ouest de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et sur le reste du pays, eh bien là, les conditions vont s'améliorer. Grand soleil de la Haute-Normandie au Hauts-de-France en passant par le bassin parisien dès le matin, avant de gagner l'après-midi la quasi-totalité de la Basse-Normandie, la Sarthe et l'Eure-et-Loire, autrement dit la région du Mans et de Chartres. Et sur le reste de la moitié nord, là il va falloir parfois attendre la dissipation de la grisaille matinale. Les températures seront de saison, les maximales afficheront 18 degrés au Puy-en-Velay, en Haute-Loire, 19 à Verdun, 20 à Troyes et Belfort, 21 à Saint-Lô, Agen, Paris, Lyon et Bourges, 22 à Grenoble et Bordeaux, 23 à Perpignan, 26 à Saint-Tropez, ça monte jusqu'à 27 en Corse.
Merci Marlène. Dans un instant sur Europe 1, Top à Wall Street avec Didier Hamot et puis l'invité éco ce soir, Marc Delahaye, président du GIE Objectif Transport Public. A tout de suite.
Europe Nuit, informez-vous avec Alexandre Lemaire sur Europe 1.
22h17 sur Europe 1, c'est Top à Wall Street avec Didier Hamot. Bonsoir Didier.
Bonsoir Alexandre.
Wall Street commence la semaine comme elle a terminé la précédente, autrement dit, en net repli.
Ça baisse, ça chute de 1,78% sur le Dow Jones, 33 970 points. Le Nasdaq recule plus nettement de 2,19%, 14 714 points. Les risques de faillite du groupe immobilier chinois Evergrande, écrasé par 300 milliards de dollars de dette, c'est énorme. Eh bien, ces risques, évidemment, pèsent toujours sur les marchés, comme la semaine dernière, effectivement. Ça ne change pas avec un risque d'effet de boule de neige internationale. Et donc, ce sont les banques qui trinquent, avec Bank of America qui perd 3,4% ce soir. Goldman Sachs, moins 3,3%. Morgan Stanley, moins 3%. Tous les établissements financiers sont en net repli à Wall Street. JP Morgan, moins 3% aussi, à 153 dollars. Aux valeurs de technologie, c'est rouge, mais c'est un petit peu moins net. Microsoft, moins 1,8%. Apple repère 2% à 142,94 dollars. Google perd 1,4%. Amazon, 3% de baisse quand même, avec Tesla, moins 3,8%. À 730 dollars. Le pétrole aussi recule et accuse le coup de retour sur les 70 dollars le baril. Et puis l'euro tente de résister au-dessus des 1,17. 1,1730 face au dollar.
La bourse de Paris aussi accuse le coup, en recul de près de 2%.
Oui, logiquement, moins 1,74% exactement. 6455 points. Au plus bas quand même depuis 2 mois, depuis la fin du mois de juillet. Et ce sont les valeurs pétrolières surtout qui retombent dans le sillage du baril de brut. Vallourec, moins 8%, on a CGG, moins 5%, Technip, moins 4%, Total aussi perd 1,4% à 37,85 €. Et ici aussi les banques, les financières au sens large, BNP, moins 4,5%, Crédit Agricole, moins 4%, la Société Générale perd plus de 5%, 24,56 €. Il y a un petit peu de dégâts aussi du côté des valeurs industrielles, dont l'automobile en particulier. Stellantis, moins 5%, et Faurecia qui retombe de plus de 4%.
Exception du jour, Didier, les valeurs du transport aérien qui réagissent évidemment très bien aux annonces de Washington. On rappelle que les États-Unis vont rouvrir leurs frontières aux voyageurs internationaux vaccinés.
Alors c'est logique, oui, on en parlait tout à l'heure. Eh bien, Air France remonte logiquement de 5%, 4 € et même un petit peu plus, 4,08 €. On a aussi Aéroport de Paris qui repart à la hausse, plus 4,5%, 106 € ce soir. Les autres places financières sont en net repli. Sur ces craintes venues de Chine, on a le DAX à Francfort qui perd 2,3%, Bruxelles moins 1,3%, Madrid moins 1,2%, Amsterdam moins 1,4%, et donc le CAC 40 en baisse d'1,74%, 6 455 points.
Merci Didier Hamot. Opération, la rentrée du transport public jusqu'à mercredi sur Europe 1. C'est l'occasion de se pencher sur l'impact de la crise sanitaire dans ce secteur. L'invité éco ce soir, Marc Delayet, président du GIE Objectif Transport Public, vice-président de l'Union des Transports Publics et Ferroviaires. Il répond à Aurélien Fleureau.
Bonsoir Marc Delayet.
Bonsoir.
Vous êtes le président du GIE Objectif Transport Public et vice-président de l'UTP, l'Union des Transports Publics et Ferroviaires. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Si j'ai eu envie de vous entendre ce soir, c'est pour évoquer ensemble la rentrée dans les transports, alors que nous sommes toujours dans un contexte évidemment de crise sanitaire et que la semaine européenne de la mobilité se termine demain. Alors d'abord, est-ce que les Français sont revenus dans les transports collectifs, les métros, les bus, les trams, ou est-ce que certaines habitudes ont changé ?
Écoutez, fort heureusement, il y a un retour qui est en cours. Pour autant, on ne retrouve pas les niveaux de fréquentation préalables à la crise sanitaire. Et donc, on reste dans cette incertitude autour de ces choses-là. Mais on constate quand même un peu une évolution positive. À côté de ça, ben, effectivement, il reste un petit peu de fréquentation en moins. Et cette fréquentation, alors... Il y a une partie qui est partie vers de la marche à pied et du deux-roues. Et ça, bon, c'est très bien, puisque généralement, les collectivités avec les opérateurs travaillent pour une offre de mobilité complète qui soit une alternative à l'autosolisme, à l'utilisation en solo de la voiture. Or, on constate que c'est une partie des choses qui se passent le plus.
Oui.
Et on a effectivement beaucoup de retours à des circulations un peu importantes avec de l'utilisation solo de la voiture. Et ça, c'est des mauvaises habitudes. Alors qu'on était en train de gagner en 2019, on voyait frémir à pas mal d'endroits, de pas mal de collectivités, d'agglomérations, une baisse de la part modale, qui est notre jargon pour mesurer chaque mode,
oui,
de la voiture particulière au bénéfice du transport public.
Donc l'aspect sanitaire qui a joué dans un premier temps, mais du coup, vous le dites également, le vélo, la marche à pied, on a aussi pris de nouvelles habitudes. Alors évidemment, ça ne peut pas fonctionner pour tous les types de déplacements, évidemment, où la voiture parfois sera difficilement remplaçable, mais en tout cas, la marche à pied pour les courtes distances, c'est des bonnes habitudes de mobilité qui ont été prises.
Oui, certes, hein, y a ce côté-là, y a la marche à pied est un axe de travail très fort qui est mené depuis quelques années par les collectivités pour redécouvrir un petit peu, se réapproprier l'espace public pour ces usages-là. Le vélo, également poussé par l'émergence du vélo à assistance électrique, notamment, oui, a permis ce genre de choses.
Et l'impact du télétravail, qui peut donc aussi impacter les transports collectifs, les transports en commun, comment vous le jugez et comment on s'y adapte ?
Alors, il y a effectivement eu un phénomène télétravail. D'une part, il ne concerne pas toutes les agglomérations, dans, en tout cas les plus grandes, mais les agglomérations un peu plus réduites ont peut-être moins eu ce type de phénomène.
Oui.
D'autre part, on sait bien qu'il y a une bonne partie de l'emploi qui ne permet pas du télétravail également. Donc ça limite les choses. Bien évidemment, les collectivités et les opérateurs répondent à cette nouveauté, notamment d'un point de vue en adaptant à la fois l'offre dans la façon de travailler, et notamment pour répondre à ce type de besoins, mais surtout d'un point de vue tarifaire en créant des abonnements un peu plus adaptés à ce type de demande.
un peu plus souple, effectivement, pour des personnes qui prendraient des transports que deux ou trois fois par semaine, là où peut-être avant, ils le prenaient quatre ou cinq fois chaque jour, en tout cas. On parle aussi, évidemment, beaucoup de décarbonation, de transports plus verts, alors évidemment, dans le secteur automobile avec l'électrification, mais aussi les bus électriques à hydrogène. Ça, c'est du concret ou est-ce qu'on est encore au début et c'est en train de se mettre en place doucement?
Ah non, non, il y a déjà, en tout cas sur l'électrique, une offre, et notamment une offre de constructeurs nationaux. Hein. Il y a des acteurs traditionnels, je pense au groupe Iveco ou Elies Bus, une offre électrique qui s'est développée beaucoup depuis quelques années. Mm-hmm. Mais des constructeurs un petit peu nouveaux dans ce type de fonctionnement, je pense à Blue Bus du groupe Bolloré, donc qui ont développé petit à petit une offre qui permette aux collectivités d'avoir choisi depuis quelque temps de remplacer. Cela étant, à ce propos-là, déjà, la première transition énergétique potentielle, c'est celle de renouveler les flottes les plus vieilles de diesel, déjà par des dernières générations de véhicules diesel qui ont aussi beaucoup progressé et qui sont beaucoup plus vertueux et qui permettent d'aller beaucoup plus vite parce que les coûts des véhicules électriques et a fortiori des véhicules hydrogène font que c'est parfois un petit peu compliqué d'aller de remplacer beaucoup de véhicules en une fois.
Effectivement. Et puis, il y a aussi un aspect qui est très important en ce moment, c'est le financement. C'était déjà le cas l'année dernière avec forcément baisse de fréquentation, baisse de recettes pour les autorités qui gèrent les transports dans les régions. Ça aussi, c'est un sujet très important en ce moment. Il y a des signes positifs. Il y a des aides de l'État, notamment dans les régions. Mais est-ce que ce sera encore une année compliquée 2021?
Oui. En tout état de cause, il semble bien que les collectivités et les opérateurs vont avoir encore par la fréquentation, par la nature contractuelle. Alors, ce sont forcément les collectivités qui supportent beaucoup de choses. Donc, derrière ça, c'est elles qui se battent. Alors, il y a une bataille qui est engagée pour avoir un traitement égalitaire entre ce qui se passe en région Île-de-France et en province. Pour que les collectivités soient toutes traitées de la même façon, entre des aides et des avances remboursables. Ce n'est pas la même chose quand même. Quand il faut rembourser, à terme, ça devient un petit peu plus compliqué. Ce n'est pas la même chose, même si ça permet de franchir les étapes. Je pense également qu'il faut bien voir qu'il y a eu deux phénomènes. Le phénomène, effectivement, de baisse de recettes, d'arrêt, mais il y a un service qui a été maintenu. L'ensemble, pendant toute la durée de la crise sanitaire au moment des confinements, donc les charges sont restées, alors pas entièrement, mais en tout cas aussi parce que la profession a maintenu aussi les salaires et les choses comme ça dans le fonctionnement, même avec les aides du chômage partiel, il y avait des coûts, et puis des charges nécessaires, notamment pour les mesures sanitaires, le gel, la désinfection systématique des véhicules à haute intensité, toutes ces choses-là qui ont été là. Et donc, ma foi, le modèle économique est un petit peu menacé, et donc il y a toute une mobilisation autour de ça. Et le rapport Duron qui a été remis pendant l'été au gouvernement a bien mis en avant ce type de choses et devrait nous permettre d'avoir des réponses progressivement à ces besoins du secteur du transport public.
Et ce sera un sujet à suivre dans les semaines qui viennent, bien évidemment. Merci Marc Delayet. Je rappelle que vous êtes le président du GIE Objectif Transport Public et vice-président de l'UTP, l'Union des Transports Publics et Ferroviaires. Retour de l'interview Écho demain 22h20 avec Emmanuel Dutheil.
Et merci à vous Aurélien Fleureau. Notez ce rendez-vous demain de 13 à 14h sur Europe 1 dans La France Bouge. Emmanuel Dutheil et Elisabeth Assayag recevront le directeur général de Karma, entreprise française leader dans la conception de cœurs artificiels, pour une émission consacrée aux toutes dernières innovations dans le domaine médical.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire vous informe sur Europe 1.
Découvrons ensemble les unes de vos quotidiens demain matin. À la une du Figaro d'abord, Emmanuel Macron qui multiplie les promesses. Macron déjà en campagne, titre Le Figaro, à 7 mois de la présidentielle, le chef de l'État se déploie tous azimuts. Il enchaîne les annonces et les dépenses. L'opposition s'inquiète d'une dégradation à venir des comptes publics. Macron, candidat tôt ou candidat tard, s'interroge l'opinion. À quelle date, en clair, le chef de l'État entrera-t-il en campagne le plus tard possible, répond son entourage. Un choix discuté dans la majorité où l'on observe que le président subit les thèmes du débat public. Outre la question de sa candidature, c'est un autre sujet de préoccupation et de colère pour Emmanuel Macron, la crise des sous-marins. Dans cette affaire, quels alliés pour la France, se demande Lacroix. Après le retournement de l'Australie, Paris doit maintenant diversifier ses alliances pour protéger ses intérêts dans cette région très éloignée de la métropole. Et puis Libé nous fait entendre un vieux tube d'Hervé Villard. Pour nous parler de nos voisins allemands, en réalité, Mutti, c'est fini. Mutti en allemand, c'est l'équivalent de maman. Et c'est aussi le surnom d'Angela Merkel. Mutti, la mère de la nation. Les élections de dimanche prochain signeront la fin de 16 ans de pouvoir pour Angela Merkel. Libération consacre un spécial Allemagne pour dresser le portrait d'un pays en chantier. 22h30 sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver tout de suite Olivier Delacroix pour la Libre Antenne. Olivier, bonsoir.
Bonsoir mon cher Alexandre.
Vous avez passé un très beau week-end, je le lis sur votre visage.
Eh bien écoutez, vous lisez très bien mon cher, très bien. Il a été reposant et donc constructif ce week-end. Et vous ?
Très bien, très bien
aussi.
Beaucoup de sport.
Oui, parce qu'on parle de moi, mais vous, vous m'avez l'air très en forme aussi.
Ça va très bien.
Bon, on n'en est pas là à s'appeler Mutti quand même.
Non, pas encore.
Pas encore. Bon, elle va être regrettée, hein, cette Angela Merkel quand même.
Par les Allemands, sans doute.
Par
oui,
les
bien
Allemands.
Sûr. Oui, oui.
C'est du que de souvenirs. Le temps passe, mes amis. On se retrouve tout à l'heure pour votre flash
à
23
Olivier.
Ans, mon cher Alexandre.